Hier, les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu, je cite, immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza. Washington avait par avant clairement indiqué qu'il ne soutiendrait qu'une résolution liant explicitement le cessez-le-feu à la libération des otages, ce qui semble ne pas avoir été le cas hier. L'occasion donc pour nous, Radio Judaïka, de nous entretenir avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, un entretien enregistré juste avant l'officialisation de la position américaine, mais qui la pressentait grandement. Yehuda Lankri est au micro de Blaise van der Linden.
Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour Blaise.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU. Alors justement, de l'ONU, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Il va y avoir un nouveau vote, un nouveau vote qui sera incertain, qui demande un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent. Et c'est nouveau dans ce document, dans ce texte, il y a également la libération immédiate et inconditionnelle des otages, de tous les otages qui a été rajouté. Yehuda Lankri, que pensez-vous de ce nouveau document ? Pensez-vous qu'il peut aboutir à quelque chose?
Alors, vous le signalez, en ce qui concerne les otages, ça a été rajouté, mais il n'y a pas de partie liée entre les deux éléments. Il faudrait absolument que la clause qui évoque l'arrêt immédiat des combats, de l'action militaire et de l'action du Hamas. Il est là, le Hamas. D'ailleurs, qui n'est pas évoqué dans cette résolution du tout. On s'arrange pour que les résolutions passent sans l'évocation et la condamnation du Hamas, sans même rappeler le 7 octobre. Ça ne figure pas dans le texte de la résolution. Donc, ce texte est imparfait parce qu'il n'établit pas de lien clair et net, de lien insécable, si je puis dire, entre les deux éléments fondamentaux. Un appel au cessez-le-feu est positif globalement, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut l'exécuter, s'agissant d'Israël, que si il y avait un appel aussi rigoureux à la remise en liberté des otages israéliens. Ça doit avoir partie liée impérativement.
Justement, vous évoquez ce mot partie liée, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas tout aussi au fait que vous l'êtes et vous l'avez été tout au cours de votre carrière. Qu'est-ce que cela signifie que ce soit partie liée, ce cessez-le-feu et cette libération des otages?
C'est-à-dire que lorsque vous considérez le paragraphe qui est consacré à l'appel au cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, il faut que dans le même mouvement, dans le même souffle, figure la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Il ne faut pas que ce soit séparé et renvoyé à un paragraphe subsidiaire sans qu'il y ait de lien entre les deux éléments fondamentaux. Mmh. Alors, il faut que ça fasse bloc.
Danny Danone, l'ambassadeur israélien à l'ONU, a lui dénoncé ce texte. Il a déclaré que c'était honteux. On peut donc craindre un veto américain face à ce terme utilisé par Israël ?
On l'espère dans ces conditions, parce que non seulement il n'y a pas de, comme je le dis, de liaison impérative entre les deux pièces fondamentales de la résolution, l'appel au cessez-le-feu et l'appel à la libération immédiate des otages. Non seulement il n'y a pas ça, mais il n'y a pas non plus, ça fait peut-être la dixième résolution qui est prise depuis le début de ces événements à Gaza. Il n'y a pas le rappel de l'acte génocidaire du Hamas du 7 octobre. Il n'y a pas de condamnation du Hamas. C'est invraisemblable de considérer qu'il y a des résolutions des Nations Unies qui, ni à l'Assemblée générale, ni au Conseil de sécurité, ne condamnent le Hamas pour ces atrocités commises le 7 octobre.
Comment l'expliquer ce fait? Beaucoup de pays qui sont dans le Conseil de sécurité de l'ONU considèrent le Hamas comme un mouvement terroriste. Comment expliquer que ce Conseil de sécurité ne le considère pas comme un groupe terroriste?
Il y a évidemment parmi les membres permanents, comme la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, des États membres qui considèrent que le Hamas est ça n'est même pas un groupe, c'est une armée terroriste, qui a pris des dimensions similaires à celles d'une armée. Les autres, les 10 non-permanents, qui sont élus pour une durée de 2 ans, peuvent avoir développé des sympathies depuis bien longtemps. Non seulement à la cause palestinienne, c'est légitime de vouloir défendre la cause palestinienne, mais il est illégitime de noyer dans les eaux purificatrices de la cause palestinienne, les eaux lustrales, comme on dit en religion, l'acte affreux du Hamas, les atrocités du Hamas. Donc on passe par-dessus ce que le Hamas a fait en évoquant la Palestine, la cause palestinienne, etc. Cette confusion est une confusion inacceptable et inadmissible aux yeux d'Israël, comme il est inadmissible au regard d'Israël d'arrêter son expédition militaire avant la libération ou un accord sur la libération du dernier des otages israéliens. On essaye évidemment par le biais de pays tiers, comme l'Égypte notamment, un peu moins le Qatar ces temps-ci, de trouver un compromis possible pour un échange entre les otages israéliens et les prisonniers, certains prisonniers palestiniens. Donc, quand cette condition sera remplie, à ce moment-là, on peut adopter une telle résolution. Nous espérons que les États-Unis vont faire usage de leur pouvoir de veto pour que cette résolution ne passe pas. Les 10 membres non permanents et peut-être bien la Russie et la Chine misent sur la répétition d'un acte que l'on attribue aux États-Unis. C'était vrai, en 2016, les États-Unis s'étaient abstenus. C'était Obama à l'époque, en fin de parcours, qui était dans une espèce de brouille avec Netanyahou, qui a incité la délégation américaine à s'abstenir sur une résolution touchant les implantations israéliennes dans les territoires palestiniens. Mais cette histoire du Hamas est d'une autre gravité. Je pense qu'on ne peut pas logiquement déduire que les États-Unis vont réitérer leur décision de fin de parcours de cette administration et s'abstenir. Joe Biden est un ami d'Israël et même par-delà les mésententes qu'il a pu accumuler avec Netanyahou, il est toujours clairement acquis à défendre Israël. On le dit d'ailleurs d'être sioniste, c'est lui-même qui se qualifie de sioniste. Et je pense qu'il y a là un facteur de sécurité, de garantie pour Israël à ce niveau.
Alors, Yehuda Lankri, vous avez évoqué la Russie et la Chine. On connaît les liens qui unissent la Russie et l'Iran. La Russie a-t-elle un rôle à jouer dans ce Conseil de sécurité de l'ONU?
Elle joue son rôle. Elle le manifeste par des votes qui sont en défaveur d'Israël. La Russie non plus n'a pas trouvé les mots qu'il lui fallait pour condamner le Hamas, ce qui est scandaleux. Condamner le Hamas après son action du 7 octobre. Et tout ça, on le sait, ce sont des positions politiques qui sont défendues par les uns et les autres. Et plus d'une fois, les 5 membres permanents se neutralisent grâce à leur pouvoir d'usage du veto.
Yehuda Lankri, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël auprès de l'ONU. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka. À bientôt.
Merci beaucoup, Blaise.